Hello, j'ai le plaisir de vous partager une bonne nouvelle. Pour le 100e épisode du podcast Action Réservation qui sortira le 17 avril, je vous ai prévu quelques petites surprises qui seront valables uniquement du 17 avril au 30 avril pendant 2 semaines. Et ben pour en savoir plus, il vous suffit simplement de vous abonner à la newsletter. Vous retrouverez le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Et puis vous serez donc informé en temps et en heure sur l'ensemble des offres que je suis en train de vous préparer. Belle écoute à tous et j'espère à très vite pour ce rendez-vous du 100e épisode. Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo, au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Prune Vélo, rédactrice en chef de Beauquartier, le magazine de l'art de vivre grenoblois. Elle nous partage en toute transparence les coulisses de la conception d'un numéro, en particulier la sélection de sujets pour des week-ends thématiques ou encore des portraits d'architectes et décorateurs d'intérieur. Je dois bien l'avouer, j'avais un peu perdu la foi dans la presse magazine ces dernières années où la commercialisation d'espaces publicitaires avait pris le pas sur la qualité rédactionnelle. Prune redonne ici toutes les lettres de noblesse au journalisme. Elle met un point d'honneur à respecter coûte que coûte sa ligne éditoriale. Et ici, le lecteur est roi. Bienvenue dans les coulisses du magazine Beauquartier. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Bienvenue Prune sur le podcast. Aujourd'hui, c'est l'intervieweuse interviewée. Donc, on va parler du magazine Beauquartier, qui est bien connu des Grenoblois. Est-ce que tu veux bien commencer, s'il te plaît, par nous présenter la ligne éditoriale du magazine avec tes mots à toi et le lectorat à qui il s'adresse en particulier ?
Alors, le magazine Beauquartier est un magazine d'art de vivre qui est diffusé sur Grenoble, son agglomération et puis la vallée du Grésivaudan principalement. Il s'adresse... à des adultes de catégorie socio-professionnelle plutôt élevée. C'est un magazine qui a trois grandes lignes de sujets. La première, évidemment, c'est tout ce qui est art de vivre, donc qui concerne les commerces, que ce soit du bien-être, de la restauration, etc. On a aussi toute une partie, évidemment, architecture-design, qui est le cœur historique du magazine, avec des visites privées, des rencontres d'architectes, des produits, type décoration, qui sont mis en avant, ou design. Et puis la troisième partie, c'est tout ce qui est culture, exposition, spectacle, vie culturelle, voilà, de l'agglomération.
D'accord. En termes de tirage, on est sur un magazine d'ailleurs qui est trimestriel, hein, donc il y a 4 parutions par chaque année. Et il est tiré à combien d'exemplaires ce magazine ?
Alors c'est un magazine qui est tiré à 20 000 exemplaires et qui effectivement a une diffusion par saison. Un numéro l'hiver, un numéro au printemps, à l'été et à l'automne.
Ok, super. Alors ici sur le podcast, les auditeurs sont essentiellement des hébergeurs touristiques et des offices de tourisme. Une question qu'on me pose souvent, c'est comment apparaître dans un reportage de magazine, d'un magazine déco, un magazine de voyage, un magazine de lifestyle comme Beauquartier par exemple. Quelle serait déjà ta première réponse vis-à-vis de ton point de vue de rédactrice en chef pour ce public-là d'hébergeurs et d'offices de tourisme qui voudraient, si possible, avoir un reportage de magazine ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est déjà très ancrés sur un territoire qui est celui de Grenoble, de son agglomération, et parfois un peu plus largement celui de l'Isère. En termes de sujets touristiques, on va dire que c'est pas dans notre ligne éditoriale directe, ce qui n'empêche pas qu'on a régulièrement des sujets escapades, où on s'en va découvrir d'autres régions, voilà, pour proposer à nos lecteurs finalement des week-ends à thème, des petits séjours pour les faire changer d'air. Donc, Là, souvent, c'est moi qui vais à la rencontre, finalement, des offices de tourisme. Je les sollicite pour des sujets, pour des destinations. Mais ça peut très bien être en sens inverse.
Mais oui.
On peut très bien avoir des propositions qui émanent justement d'offices de tourisme.
OK. Et concernant le fait que tu as parlé dès le départ d'une saisonnalité, c'est-à-dire que les bouclages, est-ce que tu peux peut-être préciser le processus de conception d'un numéro, notamment dans ton cas d'un magazine trimestriel, parce que moi, quand j'entends ça, ça veut dire qu'il y a un mot-clé, j'imagine, c'est l'anticipation. Est-ce que tu peux expliquer le côté coulisses, en fait, l'envers du décor, pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien? Comment ça se passe si on veut, donc, tu as parlé de sujets d'escapade, ok, j'ai envie d'être dans un de tes prochains sujets, comment je l'anticipe, du coup?
Eh ben, il faut savoir qu'un numéro, par exemple, si on prend un numéro d'hiver qui va sortir le 1er décembre, il s'écrit et il se fabrique dans les 3 mois qui le précèdent. Donc, en gros, à partir du mois de septembre, octobre, novembre. Parce qu'on a un bouclage qui est à peu près mi-novembre pour qu'après, il y ait le temps de se faire imprimer et d'être distribué, etc. Donc ça veut dire qu'en fait en septembre j'ai ma réunion de rédaction, ma conférence de rédaction avec mes pigistes, mon photographe, ma direction, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le point sur les différents sujets. Donc si je garde mon exemple de numéro d'hiver, par exemple, je peux avoir une destination montagne, une destination neige à cette époque-là. Et ce qui est important, c'est que l'office de tourisme, si elle veut avoir une chance en fait d'être dans ce numéro d'hiver, elle m'est contactée bien en amont. C'est-à-dire que quand je vais avoir ma réunion moi, en septembre, j'ai déjà commencé à préparer, à réfléchir à mes sujets, comme tous mes pigistes d'ailleurs. Donc c'est vraiment important d'anticiper et finalement 3, 4, parfois jusqu'à 6 mois à l'avance.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que ces 3 mois n'est même pas suffisant. C'est que si on veut que au moment de ta réunion de conférence de rédac, le sujet soit sur la table et que l'office de tourisme soit dans le sujet, c'est qu'en fait, il faut qu'on ait fait parler de nous bien en amont, finalement. Oui, tout à fait.
Voilà. Et si je garde en plus cet exemple du sujet d'hiver et de neige, qui est assez complexe, parce qu'il faut qu'on ait un environnement montagne qui soit blanc.
Oui.
Et donc, ça veut dire que le sujet, il faut le faire 1 an à l'avance. Donc, il faut être sur une anticipation et se dire que voilà, le sujet, il ne va pas porter ses fruits tout de suite. Mais il va falloir être patient avant d'en voir la couleur, finalement. Oui,
d'accord. Et justement, on parle de prise de contact. Donc, OK, je me suis notée, moi, de mon côté, en tant qu'hébergeur, je pense que je serais plutôt pertinent par rapport aux atouts de mon hébergement touristique. Tu vois, ça vient justement appuyer le fait qu'il faut connaître vraiment très, très bien ses atouts et du coup, quelle est la meilleure saison pour mettre en avant son hébergement. OK, j'ai décidé de prendre contact, on va dire, 6 mois avant. Est-ce que, en général, tu préfères être contacté par des attachés de presse, des offices de tourisme en direct ou, alors tu l'as dit toi-même, des fois tu pars à la recherche, mais ce serait quoi la proportion entre tu te laisses contacter et où tu pars toi-même à la recherche?
Alors aujourd'hui, je dirais que dans 90% des cas, c'est moi qui pars à la recherche des contacts sur le terrain. Mais il m'arrive d'être sollicité, soit directement par des services communication d'office de tourisme, soit par des agences de presse à qui a été finalement délégué le volet communication d'une ville ou d'une station, etc.
OK. Et alors, comme tu l'as dit, parfois, ça peut mettre 1 an. En fait, avant que son sujet finisse par être utilisé. Donc, il y a vraiment cette notion de temps long. Et d'ailleurs, hier, j'enregistrais avec donc Marie, que tu connais très bien, qui est attachée de presse. Cette notion de temps long et de temporalité et de long terme, et d'où le terme de relation, c'est-à-dire qu'il faut nourrir une relation et la maintenir et l'entretenir. La question, ce serait... OK, je t'ai envoyé un sujet. Comment je peux savoir si il t'a intéressé, comment je peux savoir, comment je peux faire pour te recontacter sans être ultra lourd, en fait. Moi, ça serait plutôt ma crainte, comment je peux faire, même si je sais que bah, tu reçois peut-être 300 mails par jour, comment je fais pour être toujours un peu dans ton esprit? Comment je sais si le sujet déjà t'intéresse? Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu fais pour manifester ton intérêt pour un sujet ou, à l'inverse, manifester ton désintérêt pour le sujet?
Alors, généralement, quand je reçois un mail qui est susceptible de m'intéresser, d'emblée, je mentionne à la personne que je garde finalement le sujet sous le coude, ce qui pour moi sous-entend que je ne vais pas le traiter dans l'immédiat, mais qui m'intéresse. Alors, quand j'ai déjà un peu une idée en tête, je mets finalement une période à la personne pour qu'elle me recontacte en me disant ben, « on se rappelle début septembre » ou « on se rappelle en janvier », voilà. Des fois, je me dis tiens, il y a une piste à explorer, mais pour l'instant, je ne sais pas sous quelle forme. Et là, je ne vais pas forcément mettre de deadline. Donc là, bah, évidemment, le meilleur conseil que je peux donner à la personne qui m'a envoyé l'information, c'est de laisser passer un peu de temps, puis qu'elle me recontacte finalement par téléphone et pas par mail, peut-être pour expliciter son sujet et puis peut-être pour qu'on puisse échanger de vive voix sur la manière dont moi ça rentre dans ma ligne éditoriale, la manière dont je pourrais traiter le sujet à court terme, à moyen terme, à plus long terme, etc.
D'accord, donc tu es ouverte aux appels téléphoniques. D'accord, ça
oui,
c'est
oui,
bon.
Oui, oui, je suis ouverte aux appels téléphoniques. Après, je ne garantis pas, un appel téléphonique ne garantit pas qu'on traitera le sujet.
Oui, oui,
mais
tout
en tout cas, ça donne la possibilité d'échanger et d'approfondir les pistes voilà, et les angles sous lesquels on peut traiter le sujet.
D'accord. Alors, j'ai une question aussi, parce que c'est une suggestion que je fais aux hébergeurs et aux offices de tourisme de manière assez régulière, et peut-être que je me trompe en fait. Est-ce que pour toi, est-ce que tu dirais que c'est une bonne idée de te contacter avec des idées de reportage, ou est-ce qu'au contraire, c'est une fausse bonne idée?
Alors, je vais dire que ça dépend de l'idée de reportage. Si c'est une idée de reportage généraliste qui est envoyée à n'importe quel média, moi ça va sûrement pas m'intéresser en fait, parce que je me dis bah ça va être traité par d'autres, etc. Par contre, si je me rends compte que la personne en face, elle a bien ciblé notre ligne éditoriale, elle a bien ciblé nos attentes, qu'elle a bien identifié ce qu'on avait pu faire avant et ce qui nous intéresse, là je vais me dire tiens, c'est personnalisé. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris ce que c'est que Beaucartier, qui sont ses lecteurs, qui sont les gens qui le fabriquent, et ça va mettre la puce à l'oreille. On reçoit souvent de la part de structures un petit peu généralistes qui concernent par exemple des zones comme la Chartreuse, comme le Parc, des propositions de reportage, mais qui sont envoyés finalement à tous les journalistes. Alors, je vais y jeter un coup d'œil, mais ça va peut-être moins m'attirer l'attention que si j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, bah voilà,
c'est
on
pour
aimerait
toi,
bien...
C'est
voilà,
vraiment pour
c'est
toi. Pour...
Ouais, c'est vraiment pour toi, exactement.
D'accord. Cette notion un peu presque d'exclusivité, même si ce n'est pas le vrai terme. Hein,
oui, mais, c'est... mais voilà, en tout cas, une attention portée à la ligne éditoriale qui fait, tiens... moi, je me dis, ben voilà, on s'intéresse vraiment à ce qu'on est, en fait, et on n'est pas n'importe quel média.
D'accord. Du coup, finalement, ça devient un vrai filtre pour toi par rapport à toutes les propositions qui te sont soumises. Le filtre, c'est est-ce que vraiment la personne a compris ma ligne éditoriale et les attentes de mes lecteurs? En gros,
exactement.
C'est vraiment le filtre
ouais.
que tu passes. OK. Quand on a préparé...
Pour n'importe quel sujet, que ce soit un sujet touristique, un sujet d'architecture, etc., ça va être mon filtre en permanence, en fait.
D'accord.
Est-ce que ça rentre dans ma ligne? Est-ce que ça correspond à l'identité du magazine? Et à partir du moment où je réponds oui déjà à cette question, bah après, ça facilite les choses.
D'accord. Donc, vraiment, conseil fort, c'est se donner la peine d'analyser en profondeur la ligne éditoriale du média qui nous intéresse. Ça, c'est vraiment important.
Son contenu.
Ouais, d'accord. Quand on a préparé l'épisode, tu m'avais donné quelques exemples concrets. Par exemple, sur le sujet thématique que vous aviez dans un des précédents numéros sur la vie de château. Est-ce que tu peux nous donner un exemple justement sur comment tu as construit ce sujet sur la vie de château? Comment tu as sélectionné, par exemple, les hébergements, comment ça s'est passé Et typiquement, pour Beaucartier, comment ça se manifeste sur le lectorat? Quels sont les sujets qui t'intéressent?
Alors, sur un sujet comme celui-là, évidemment, il y a beaucoup de châteaux en France et on ne peut pas aller de partout. Donc, la première restriction que je vais mettre, finalement, c'est une restriction géographique. Moi, mes lecteurs, ils sont à Grenoble et alentour. Donc, ce que je vais leur proposer, c'est quelque chose qui est accessible le temps d'un week-end, donc qui est à une heure et demie de route grand max. Donc là, je vais privilégier quand même des choses qui sont sur notre territoire, sur notre département. Donc ça, ça va être le premier angle. Et ensuite, je vais orienter mon choix par rapport à ce qui fait tout le reste de la ligne éditoriale de Beaucartier. C'est-à-dire que je vais choisir des endroits avec une décoration soignée qui correspond finalement à tout notre volet architecture, design, etc. Je veux aussi choisir un endroit où il y a une offre d'activité autour de ces nuits en château, de restauration, de spa, voilà, qui permettent d'offrir une offre complète à nos lecteurs de séjour.
D'accord, avec un niveau de service plutôt haut de gamme qui correspond aussi au lectorat.
Au lectorat, exactement.
Tu parlais d'une catégorie CSP+, un lectorat CSP+, ok.
Et, sachant que quand on parle de vie de château, on a déjà un petit peu orienté, mais si par exemple je faisais un sujet sur des nuits insolites, qui pourraient être des nuits en cabane ou des nuits en tipi, je ne vais pas pouvoir être sur, finalement, de l'expérience un peu aventure. Je vais quand même rechercher un certain confort pour mes lecteurs.
D'accord.
Voilà, ce n'est pas le tout de dormir dans un arbre. Il faut qu'on dorme dans un arbre avec une belle déco, un bon matelas, un petit déjeuner servi au lit. Voilà, je vais chercher…
une expérience qui soit vraiment…
haut de gamme et à la fois qui soit complètement insolite. Voilà.
D'accord.
Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on pourrait faire, par exemple.
D'accord. Et justement, quand on parlait d'expérience par rapport au lectorat de Beaucartier, on est dans le contemplatif, on est dans le slow, on est dans vraiment l'art de vivre slow, et on n'est pas justement à la recherche d'activités sportives extrêmes ou d'aller faire beaucoup d'activités dynamiques. On est plutôt sur quelque chose de plus lent et plus doux.
Oui, j'aime bien le mot flânerie. Ou rêverie, voilà, il y a quelque chose d'assez doux, d'assez contemplatif, mais qui peut être, faire du lèche-vitrine, comme prendre son temps dans un spa, comme faire une activité peut-être plus douce, du chien de traîneau par exemple, où il y a cette dimension plus contemplative que une descente en ski extrême ou des choses comme ça.
Et là, par exemple, si j'ai compris ça et que je te contacte en te proposant des idées de reportage qui proposent des expériences qui sont vraiment de type flânerie, comme tu le dis, contemplative, là, je marque des points.
Exactement. Dit comme ça, voilà.
Okay. Non, mais parce que c'est vrai que ce n'est pas évident et de le faire pour chacun. En fait, c'est là peut-être la difficulté quand on est hébergeur, c'est se dire, il faut que je j'adapte. Mais la réalité, ce n'est pas finalement d'adapter, c'est de bien connaître son offre et de savoir à qui elle s'adresse et que de viser le bon média qui a la même cible que nous, en fait, concrètement.
Oui, je pense qu'effectivement, ce que tu dis est tout à fait juste. Si un camping me contacte, à moins qu'il ait ces hébergements insolites dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même peu de chances qu'il entre dans notre ligne éditoriale. J'ai absolument rien contre les campings, il y en a qui sont très qualitatifs, etc. Mais nous, on va plutôt aller vers de la chambre d'hôte, vers de l'hôtel étoilé, etc.
Et encore que tu vois, même dans le camping, maintenant, il y a le glamping.
Oui.
Donc, tu vois, tu parlais d'hébergement insolite, le glamping en fait totalement partie, oui. Okay.
Et voilà,
donc,
c'est pour ça que je dis, le camping, à moins qu'il ait une offre très spécifique, un premier
d'accord.
abord, voilà, le camping municipal, ça ne marchera pas.
D'accord. Voilà. Et du coup, voilà, vraiment, la clé…
Je caricature un peu, mais voilà, c'est pour donner une image.
T'as raison, il faut mettre un peu des phrases un peu plus choc pour qu'on les retienne. Donc pour terminer sur cette question, en gros, c'est respecter le lectorat et la ligne éditoriale en priorité quand on veut te contacter.
C'est ça.
Et vraiment faire un travail de ciblage approfondi. Ok. Et Justement, quand on parle des sujets de la rubrique évasion dont tu as parlé, donc ça peut être des séjours en Auvergne-Rhône-Alpes ou en tout cas à 1h30, 2h maximum de Grenoble, comment ça se passe dans les coulisses? Est-ce que c'est toi-même qui teste les séjours que tu proposes à chaque fois?
Alors oui, on fait un test, on va dire, accéléré des séjours, c'est-à-dire que souvent, on propose un week-end prolongé aux gens. Mmh. Alors, on ne va pas forcément, faire un week-end prolongé, mais on va au moins aller 48 heures sur place pour rencontrer...
Les différents acteurs,
alors que ça soit manger au restaurant, que ça soit dormir dans un hôtel, tester un spa, faire une activité. Donc ça, c'est des séjours, on va dire, un petit peu en accéléré. Donc c'est très intense pour nous, mais ça nous permet de prendre le pouls de l'environnement. Et souvent, ce qui fait une destination et que moi j'aime beaucoup inclure dans nos reportages, c'est aussi la visite touristique qui nous donne un peu l'histoire d'une ville, son pouls, sa cible touristique aussi. On ne s'adresse pas forcément à la même personne si on fait un séjour à Chamonix ou à Megève, des sujets voilà, qu'on a pu traiter dans le magazine. Même s'il y a des similitudes, ce qu'on recherche n'est pas forcément la même chose.
D'accord. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, tu vas tester, tu ne peux pas forcément tout tester en deux jours, quand tu en proposes un séjour sur quatre, par exemple, sur quatre jours. Du coup, il y a aussi cette notion de confiance, j'imagine, envers, les attachés de presse ou les destinations qui te contactent, les offices de tourisme, pour dire, bon, là, vous m'en proposez qu'on n'a pas le temps de faire, mais j'ai confiance en vous, je vais quand même les ajouter parce que ça correspond typiquement à une activité que mon lecteur pourrait aimer.
Voilà, donc on va essayer de faire effectivement un maximum de choses, mais il se peut parfois, parce qu'on est à l'intersaison et que certaines activités ou certaines personnes qui organisent ces activités sont en vacances. Et dans ce cas-là, on va se fier, on va faire confiance à l'attaché de presse ou à notre personne ressource sur place, mais aussi à la pérennité de l'activité.
D'accord.
C'est-à-dire que soit on va miser sur vraiment une nouveauté en se disant, voilà, c'est nouveau, c'est tendance, ça va marcher, ça sera là la saison prochaine, il n'y a pas de souci. Et sur d'autres choses, on va miser sur quelque chose qui est installé, qui est déjà réputé, où il y a déjà un public acquis et conquis. Voilà.
D'accord.
On se base aussi là-dessus. Et après, y a un travail, j'allais dire, de recherche en parallèle de ce que va nous avoir fourni l'attaché de presse ou la personne ressource. C'est-à-dire que moi, si j'ai des contacts sur place, je vais aussi leur demander leur avis, ce qu'ils en pensent, etc., si ça rentre vraiment dans notre ligne ou s'ils ont autre chose à nous suggérer. Donc ça, c'est du travail, on va dire, un peu plus personnel. Et puis, il y a tout un travail aussi de recherche, j'allais dire, sur Internet, où on fait de la consultation de sites, des activités, de sites, des logements, etc., où on se dit, est-ce que ça rentre vraiment dans la ligne ou pas ?
D'accord, donc tu peux aussi être à la recherche de conseils une fois sur place pour dire, y a un peu cette notion de co-construction de ton séjour, en fait, finalement.
D'accord. Oui. En tout cas, moi, il y a certaines destinations qu'on traite que je ne connais pas du tout avant d'y aller. Mais peut-être que j'ai d'autres journalistes dans mon équipe qui connaissent un petit peu, qui vont pouvoir me dire « Ah oui, là, je connais, c'est super », ou là, en disant « Ouais, c'est sympa, mais c'est pas vraiment dans la ligne ». J'ai mon photographe aussi qui connaît beaucoup d'endroits et en qui j'ai totalement confiance et qui va me dire « Oui, ça vaut vraiment le coup, en plus, c'est super photogénique ». On se base aussi sur notre équipe, sur les gens qui nous entourent et puis sur des relations qui sont plus de l'ordre personnel en se disant j'ai un ami qui vit dans le coin, il sait comment je travaille, il connaît mon média, je vais lui demander conseil, est-ce qu'il
D'accord.
pense que voilà.
D'accord, ok, oui, il y a vraiment ce côté veille et prise de température un peu dans ton réseau, quoi. D'accord, ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser que donc, tu te déplaces, vous vous déplacez généralement à combien sur ce type de séjour de presse ?
Alors, on se déplace à deux, le photographe et un journaliste.
D'accord, ok, très bien. Et sinon, tu proposes aussi des séjours thématiques où là, c'est plutôt une sélection de bonnes adresses. Là, j'imagine que pour une sélection de bonnes adresses, enfin, corrige-moi si je me trompe, mais je ne suis pas sûre que tu les testes tous. Si, comment
alors,
ça se passe?
On ne les teste pas forcément, mais par contre, on va à la rencontre de chacun.
Ah,
c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre sélection, par exemple, il y a quelques années, on avait fait un sujet sur les chambres d'hôtes à la campagne.
Mmh.
Eh bien, on est allé à la rencontre de tous les hôtes. On est allé à la rencontre, on a visité toutes les chambres, on a visité les lieux, etc. Et on a vraiment pris le temps de passer une demi-journée avec les personnes et de découvrir voilà le lieu qui proposait en hébergement.
D'accord, donc il y a quand même un vrai reportage qui est réalisé sur
place.
Il y a
un vrai reportage, voilà. On travaille. Les photos sont toujours réalisées par notre photographe. C'est très rare. Alors, des fois, voilà, sur des photos complémentaires, on peut solliciter des photos qui ont été prises par d'autres dans le cadre d'un pack communication.
Mm-hmm.
Mais sinon, on tient vraiment aussi dans le magazine, comme on tient à la ligne éditoriale, on tient à notre ligne graphique, on tient à notre ligne photographique.
Bien sûr.
Et donc, pour qu'il y ait une cohérence, on a un photographe qui travaille avec nous sur la rédaction et qui nous suit dans tous les reportages.
Super. Oui, ça,
voilà,
pour
qu'il y ait aussi une cohérence dans le regard.
Oui, et puis une homogénéité dans la qualité de toutes les photos qu'on trouve dans le magazine. D'accord. Ok, j'entends très bien. Et typiquement, bah, là, si demain j'ai envie, comme tu disais, bah, ces chambres d'hôtes, comment elles ont fait pour être dans ta petite sélection? Comment c'est toi qui as fait ce travail de veille sur cette thématique-là? Ou tu avais aussi mis de côté, certains sur cette sélection, certains provenaient de prises de contact qu'ils avaient fait avec toi?
Alors oui, typiquement ce genre de sujet, ça peut venir soit d'une veille, soit d'une personne qui nous sollicite pour mettre en valeur son hébergement. Alors, c'est des sujets que je peux garder sous le coude très longtemps, un an, deux ans, jusqu'à ce que je regroupe d'autres choses qui sont sur la même thématique et que je me dise « Ah bah tiens, ça peut faire un sujet ».
Oui, bah c'est là où on comprend bien le côté patience, la nécessité d'être patient, c'est que effectivement, l'hébergement à lui tout seul ne nécessite pas forcément un reportage complet. Par contre, il va s'inscrire dans une thématique plus large et donc dans le cadre d'un dossier ou d'une sélection de bonnes adresses. Et là, on comprend pourquoi tu as attendu plusieurs mois pour constituer cette fameuse sélection finalement.
Voilà.
Okay.
C'est vraiment, c'est valable pour tous les sujets, j'allais dire, et tous les dossiers qu'on peut traiter dans le magazine. C'est un petit travail de fourmi qui agglutine des informations, des pistes de sujets, et qui un jour se dit, tiens, là, je commence à vraiment avoir de la matière pour aborder cette thématique-là. Il faut peut-être que je la complète. Donc là, je la complète avec une recherche. On va dire active, mais c'est d'abord parce que j'ai glané un sujet, puis un deuxième, puis un troisième sur la même thématique, où là je commence à me dire ah tiens, on tient quelque chose.
On est vraiment dans de l'investigation de toute façon là, finalement. C'est
alors
c'est...
peut-être que le mot
investigation, allez, je suis peut-être allée loin.
un peu fort, mais en tout cas, je dirais que c'est une sorte de curiosité et de veille permanente.
D'accord, ok. Ok, très bien. Et puis, il y a souvent une rubrique à laquelle les hébergeurs touristiques ne pensent pas forcément, ce sont les portraits. Je prends l'exemple, dans Beauquartier, il va s'agir parfois d'interviews d'architectes ou de décorateurs d'intérieur. Moi, j'aime bien souvent dire à mes auditeurs, prenez des chemins de traverse. Passer par la petite porte, et je te l'ai dit l'autre fois quand on s'est eu au téléphone, j'aime bien donner cette image de, oui, il y a les artistes qui passent par la grande porte, mais vous, prenez la petite porte de service, quoi qu'il arrive, du moment où vous êtes entré dans le théâtre, vous êtes entré dans le théâtre, c'est l'objectif, quoi. Peu importe la porte d'entrée, du moment qu'on y est. Et du coup, est-ce que les portraits seraient une de ces petites portes d'entrée intéressantes, selon toi, pour un hébergeur touristique?
Alors oui, il y a plein de petites portes d'entrée possibles. On va pas systématiquement faire un grand reportage sur un hébergement. Par contre, Et ben effectivement, dans le magazine, on a des architectes d'intérieur qui travaillent pour des hébergeurs à embellir les lieux, à les mettre en valeur, etc. Nous, ces gens-là, on leur donne la parole régulièrement dans le magazine. Alors, les portraits tournent et non seulement bon, on met en valeur leur travail, mais on met en valeur aussi certaines de leurs réalisations. Mmh. Et donc, eux peuvent très bien mettre en valeur la réalisation d'un hôtel, d'une chambre d'hôte, d'un restaurant, qui donnera la visibilité sur un lieu de manière indirecte.
Oui, alors sous un angle design et construction ou rénovation, quoi, du coup.
Exactement. Alors après, bien sûr, on reste toujours, on va dire, avec nos contraintes éditoriales, c'est-à-dire que cet architecte ou ce décorateur ou cet architecte d'intérieur, il faut qu'il ait un ancrage local, il faut qu'il soit grenoblois ou des environs de Grenoble. On ne va pas donner la parole à un architecte parisien. Donc, si l'hébergeur a fait intervenir un architecte parisien, ben, la petite porte de secours, elle se ferme, entre guillemets. Mais après, on a aussi d'autres rubriques. On a notre rubrique Conso Bonnes Adresses, donc là, qui met en valeur dans la partie art de vivre des nouveaux lieux, des nouveaux produits, etc. Alors là, un hébergeur qui se trouve en station et qui vient d'ouvrir sa chambre d'hôte ou son hôtel, ça va être trop loin pour nous. Par contre, si c'est un hôtel qui vient d'ouvrir en centre-ville de Grenoble, oui, ça marche.
D'accord.
Voilà. D'accord. Parce qu'on reste sur notre périmètre resserré, géographique, et sur notre angle art de vivre, consommation, bonnes adresses, voilà, qui est une partie aussi phare du magazine.
D'accord. Donc, en fait, il existe plusieurs manières détournées de parler de son hébergement, de son lieu, sans en faire forcément, effectivement, la promo, enfin, en tout cas, un reportage dédié. Et c'est ça que j'essaie souvent de leur dire, c'est commencer petit. Et puis, au bout de plusieurs parutions, bon, bah, et au moment où on nourrit toujours cette relation, bon, bah, ça peut finir par arriver. Il n'y a jamais de garantie, mais oui.
Et j'ajouterais que ce n'est pas parce qu'on a un reportage de 3 pages que ça va être plus lu qu'un quart de page, en fait. Et typiquement, si je reprends cet exemple de nos pages Bonnes Adresses, ce ne sont que des petits quarts de page qui montrent finalement le foisonnement de la vie grenobloise, de son économie, de son commerce, etc. Mais ça fait partie des pages les plus lues du magazine, parce que justement, ce sont des formats courts, on sait que c'est de la nouveauté, les gens sont en attente de ça. C'est la dimension actualité que nous, on a, en fait, sous notre angle bien précis de l'art de vivre, etc. Mais n'empêche que c'est de l'actualité, et les gens sont friands de ça. Et des fois, finalement, ils vont peut-être plus voir un petit quart de page qui est dans une rubrique qui est très lue, que dans un reportage sur une pleine page ou plusieurs pages.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des rubriques qui sont un peu nos rubriques rendez-vous quand on lit un magazine et qu'on est abonné. Et typiquement, effectivement, il m'arrive de surligner ou de cocher, tu vois, de checker. Ah oui, tiens, ça, c'est à tester. Tu sais, comme des fois, c'est des livres à lire au niveau culture, pour parler. Bah, je vais me le noter. Et effectivement, c'est pourtant, tu auras mis un titre et un tout petit avis. Mais pour autant, je vais le retenir. Et effectivement, ça ne va pas nécessiter une double page ni un 4 pages, quoi. D'accord.
L'idée, c'est de donner envie, en fait. Okay. Et après, les lecteurs ne sont pas idiots. S'il y a quelque chose qui leur attire le regard, après, ils vont aller faire la recherche par eux-mêmes. Hein.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, okay. Ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller sur les sites internet, et puis ils vont faire la suite du job, en fait.
C'est ça, d'accord. Alors, j'ai une question que beaucoup se posent. On me l'a encore posée il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Est-ce qu'il est vrai que signer un espace publicitaire dans un magazine, c'est en quelque sorte un ticket d'entrée vers un reportage?
Alors, heureusement, non. alors moi, je travaille avec une chargée d'affaires avec qui je m'entends très bien et avec qui je suis en constante relation, parce que justement, on essaye de maintenir un équilibre dans le magazine, parce que forcément, elle a des annonceurs qui sont susceptibles d'être des interlocuteurs pour moi. Et le but, c'est pas de se marcher sur les pieds. Si je décide d'un reportage sur un sujet, je vais l'avertir et dans aucun cas elle ira démarcher la personne, en tout cas dans ce numéro-là, pour avoir en plus, on on va dire une publicité ou un publi-reportage. On essaye de garder l'indépendance des deux services, qui n'empêche pas qu'on échange, en fait. Et ça, c'est hyper important.
Et à la limite, j'aurais même envie de conseiller. Alors déjà, je suis rassurée, en fait. Merci. Tu as bien dit de dire. Tu as bien fait de dire heureusement. Heureusement, effectivement, que non. Alors c'est effectivement, tu le sais, hein, c'est pas le cas chez tout le monde, mais heureusement que non. Ça veut dire qu'il y a vraiment place d'abord à la qualité du contenu. Et par contre, là où je serais plutôt d'avis à dire soyez malin, c'est que si on a réussi à obtenir un reportage. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, si un jour vous avez un reportage, bah, prenez un espace dans le numéro suivant et encore le numéro suivant, histoire de rester en mémoire.
Tu oui, il y a. Alors moi, je suis pas spécialiste, on va dire, de l'aspect publicité et commercial, mais je pense qu'effectivement, se rappeler après un reportage au bon souvenir du lecteur par une publicité ou un publi-reportage. Que ça soit une fois par an ou à chaque numéro, c'est pas idiot.
Oui.
Enfin,
d'accord.
Quand je dis chaque numéro, le numéro suivant, c'est pas idiot du tout. Mais en tout cas, c'est pas en tout cas parce que un hébergeur, un restaurant aura passé une publicité dans le magazine qu'il aura un article gratuit. Ça
c'est une idée fausse idée. Ouais, ça c'est une idée reçue.
C'est une idée reçue parce que de toute façon, moi ce qui va faire mon choix, je le redis, c'est que le sujet il rentre dans la ligne éditoriale, qui corresponde à une actualité, que ça ait du sens. Si ça a pas de sens, ça a pas sa place dans le magazine. Ça ne veut pas dire qu'une autre fois, ce même restaurateur ou ce même commerçant ne pourra pas susciter mon intérêt sur autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il achètera une pub qu'il aura un article derrière.
D'accord. Non, mais ça, c'est très bien que tu le rappelles parce que voilà. Certains ont ce sentiment-là et c'est bien que tu puisses venir casser, déconstruire cette idée reçue, en tout cas en disant à la base... Un magazine qui est soucieux de sa ligne éditoriale et de son lectorat ne fera jamais ça, en fait. Voilà. Enfin, j'ai une dernière question pour terminer sur les coulisses de la rédaction. Quel conseil donnerais-tu aux auditeurs du podcast, on l'a déjà plus ou moins abordé, concernant la relance? Quel est le meilleur moment et quel mode de contact privilégié? Alors, tu as parlé du téléphone tout à l'heure. Qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu tolères comme type de relance, toi?
Alors, si on part du principe qu'il y a déjà un mail qui a été envoyé, je trouve que le plus pertinent, si l'hébergeur, l'attaché de presse sent qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait intéresser le magazine, c'est effectivement de me rappeler, c'est ce que je disais tout à l'heure, en tenant compte de la saisonnalité du magazine et de ses contraintes de bouclage et de périodicité, de reportage, en fait. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, par téléphone, on peut échanger, on peut approfondir, on peut envisager d'autres choses. Voilà, ça ouvre de nouvelles portes. Ça aboutira pas forcément à quelque chose. Mais si c'est le cas... Excuse-moi. Je pense que l'échange verbal reste quand même la meilleure solution pour établir une relation. Ça reste quand même plus personnel, j'allais dire, qu'une relance par mail.
D'accord. En fait, tu en es l'exemple même, parce que pour la petite histoire nous concernant, tu n'étais pas sûre d'être la bonne personne pour pouvoir être interviewée pour cet épisode. Et parce qu'on a Tu as pris le temps, hein, j'ai insisté encore une fois, mais tu as pris le temps et on a trouvé l'angle de cet épisode. Alors qu'au début, tu étais plutôt hésitante, tu n'imaginais pas les différents sujets. Et finalement, on a échangé et on en a trouvé plein, en fait, finalement.
C'est ça.
On a fini par trouver plein de petites portes, ces fameuses petites portes que j'aime bien prendre. Moi, je suis plutôt, tu sais, la petite souris que l'éléphant, on va dire. je ne viens pas fracasser les portes, mais je passe plutôt par les petits trous dans les bâtiments, tu vois, si je devais donner cette image.
Et puis, ces interstices sont intéressants parce qu'en fait, ils nous permettent de trouver des angles qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc... de surprendre peut-être un peu plus aussi les lecteurs.
C'est ça.
Et mine de rien, c'est important ça aussi, puisqu'on écrit avant tout pour des gens. Et pour susciter leur intérêt, de temps en temps, il faut les surprendre un petit peu.
C'est ça. Moi, j'aime bien créer...
Même si ils aiment bien les rendez-vous et les choses aussi un petit peu installées, il y a des fois où le décalage ou l'autre angle de vue est important.
Oui. Moi, j'aime bien effectivement susciter ce « Ah tiens, je n'y aurais pas pensé ». Tu vois, cette petite remarque, ce petit léger... ah tiens, ça, c'est drôle, j'aurais pas pensé ça, j'aurais pas dit ça de telle personne ou de tel lieu, etc. Et là, tu vois, de découvrir autrement, ça j'aime bien. Donc, ok, concernant le fait de te contacter, je me posais la question, est-ce qu'il y a des événements publics, je parle pas des événements vraiment dédiés au monde des médias, mais des événements sur lesquels il t'arrive de rencontrer des acteurs de l'économie grenobloise en direct et sur lesquels vous pouvez parfois échanger en live sur ce type d'événement. Il en existe?
Alors, il y a des grands rendez-vous qui sont pas forcément... Enfin, il y a certains qui sont organisés par le magazine. Je pense à la soirée liée à notre hors-série musée qui a lieu au musée de Grenoble une fois par an. Où là, on a beaucoup d'invités, alors qui sont à la base des gens qui sont invités par nos partenaires, mais qui permettent de rencontrer, de discuter de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter de sujets et pourquoi pas imaginer des
un
sujets
reportage.
De reportage. Voilà.
Eh ouais.
Après, je prends un autre exemple qui cette fois n'est pas organisé par nous, mais les commerçants de Grenoble ont une association qui est très dynamique, qui s'appelle La Belle Ville, et qui organise pareil une fois par an un rendez-vous où ils présentent un petit peu l'ensemble de leurs activités et des initiatives et des projets à venir pour l'association.
L'association d'ailleurs qui est accompagnée par une amie que je connais très bien, que tu dois sans doute connaître, c'est Cécile Pro, qui accompagne beaucoup les commerçants de proximité. C'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur, chez qui j'avais moi-même mes bureaux fut une époque à Grenoble, et du coup je profite pour lui faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Mais d'accord, donc il existe des rendez-vous
et
où vous
voilà,
êtes convié,
et en fait voilà, et typiquement ce type de rendez-vous, on y va pas forcément pour l'actualité de l'association, parce que nous, c'est pas forcément un sujet dont on traite, même si ça nous intéresse et qu'on reste en veille, parce que voilà, ça fait partie de la dynamique du territoire, mais surtout parce qu'on sait qu'on va y croiser beaucoup de commerçants de la ville de Grenoble et que c'est l'occasion d'entretenir déjà les liens et puis peut-être d'imaginer de nouveaux sujets, etc. Et ça peut être pareil avec des acteurs touristiques. Alors, je n'ai pas là d'exemple vraiment
Moi, je pense...
en tête, mais y a des moments où il y a des présentations de saison au niveau d'Isère Attractivité, où ça peut être l'occasion. Alors, pas forcément de rencontrer des hébergeurs ou des restaurateurs ou des professionnels d'activité touristique, mais en tout cas, ça peut être une occasion de se dire « Ah, bah tiens, il y a des destinations qui pourraient nous intéresser, il y a des types d'hébergeurs qui pourraient nous intéresser. » Donc là, ça va plutôt éveiller notre curiosité, ça va pas être forcément le moment où on va tisser des liens particuliers, mais en tout cas,
c'est des rendez-vous de veille. Ouais,
c'est des rendez-vous de veille.
D'accord. Alors là, tu vois, je suis agréablement surprise de savoir, tu sais, il y a vraiment ce côté, on se fait une image des fois des rédacteurs en chef ou des journalistes, un peu les personnes vraiment difficiles à approcher. Et là, je suis contente de t'entendre dire qu'il y a des événements où justement, toi aussi, tu viens chercher du lien. Tu vois, finalement,
oui,
tu viens chercher. Et j'aime beaucoup, et je pense qu'on va conclure là-dessus, si tu es OK, c'est le côté feeling et relationnel.
Et puis, je vais ajouter une petite chose, puisque tu parlais de Marie tout à l'heure. Avec Marie, ça nous arrive de déjeuner ensemble, sans arrière-pensée de sujet, ni pour elle, ni pour moi. Mais bien sûr que ces relations qu'on entretient, c'est aussi pour faciliter à un moment donné des envies de reportage. Et c'est hyper important d'être en lien, ne serait-ce que pour prendre un café.
Oui, tout à fait. Savoir, bah, encore une fois, comme là, tu vois, tout simplement savoir comment toi, tu fonctionnes versus comment les autres fonctionnent. Et du coup, se dire, bah, OK, tout, bah, déjà, j'imagine que déjà tout le monde n'a pas le même mode de fonctionnement, mais néanmoins, c'est un point qui pour moi est très important et qu'on, j'espère qu'on l'a suffisamment mis en avant, c'est la question du relationnel. C'est-à-dire nouer des relations dans le temps. On a bien compris qu'il y a deux mots clés, c'est le côté long terme et ce côté relationnel, construire une relation durable avec des journalistes, des médias. Et là, justement, c'est ce qui peut nous garantir à un moment donné peut-être de se voir que ce soit dans un quart de page ou dans un quatre pages, un reportage de quatre pages, peu importe. Finalement, l'intérêt, c'est d'être finalement publié, hein, j'ai envie de te dire. C'est la prise de parole, hein, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, bah, merci beaucoup. Comme je te l'ai dit en off, pour moi, alors merci d'être venu enrichir déjà cette mini-série dédiée à la stratégie de presse. Je sais que c'est un
sujet. Merci à toi pour ton invitation.
En tout cas, moi, je sais que c'est un univers qui. Alors, j'ai beau baigner dans le monde de la communication et des médias quand même depuis longtemps, mais je dois reconnaître que je comprends pourquoi, d'un point de vue hébergeur, office de tourisme, parfois ça peut être flou. Parce que quand on s'y est pas vraiment frotté, on se fait plein d'idées reçues, hein, finalement. Et surtout que eux sont plutôt démarchés par du coup, des chargés d'affaires, hein, pour les espaces publicitaires, mais du coup, n'ont pas cette vision sur la création de la rédaction. Et là, c'est bien. Je trouve ça vraiment bien. Merci d'être venu partager ces coulisses, expliquer le fonctionnement d'un comité de rédaction, d'une conférence de rédaction. Et d'ailleurs, j'ai appris, et tu vois, je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais j'ai compris qu'en fait, la meilleure personne dans un média, selon la taille du média, hein, à contacter, ce n'est pas le journaliste, c'est le rédacteur en chef.
Eh ben oui, c'est lui qui centralise tout.
Et oui, mais tu vois, ça, tant que tu ne l'as pas compris, en fait, tu passes à côté, quoi.
C'est oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certains magazines qui vont avoir des journalistes spécialisés. Et bien sûr, quand on a une personne qui tient une rubrique, c'est elle qui maîtrise son sujet et c'est elle qui va convaincre le rédacteur en chef. Mais de manière générale, quand on ne sait pas à qui s'adresser, c'est vers le rédacteur en chef qu'il faut se tourner, parce que lui, au pire, il ne traitera pas le sujet, mais il le confiera à quelqu'un.
Oui, et puis il a la vision globale, comme tu disais.
Et il a la vision globale.
Tu sais à l'avance les sujets que tu as envie de traiter, même si c'est dans 6 mois, tu les as en tête, quelque part, tu les connais déjà. Et pour terminer, est-ce que les réseaux sociaux, c'est un moyen de contact que tu pourrais conseiller ou à plutôt bannir ? Toi, tu es de quelle école ?
Moi, je suis vieille école. Comme tu aurais pu le constater, j'ai parlé de mail et de téléphone et j'ai pas du tout parlé des réseaux sociaux. Ceci dit, j'ai une veille sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Mais j'avoue que quelqu'un qui ne fait pas l'effort de rechercher sur notre site internet ou dans le magazine le numéro de téléphone ou le mail pour s'adresser à la bonne personne et qui envoie sur Instagram un message qui n'est pas signé sans contact et tout, je n'ai pas envie d'y répondre.
D'accord.
Après, si le message est construit, c'est différent. Mais quand c'est juste 3 phrases balancées un peu à l'arrache, on va dire, j'avoue que je trouve que l'effort n'est pas fait pour connaître le magazine et ça m'agace un petit peu.
C'est drôle, hein, parce que moi, je me faisais, tu vois, totalement l'idée inverse. Et comme quoi, hein, on a encore des idées reçues. Hein. Aujourd'hui, dans mon monde vraiment du tout digital, pour moi, le téléphone, c'est presque devenu intrusif quand on me contacte. Tu vois, moi, je trouve. Et toi, au contraire, c'est quelque chose que tu recommandes de faire. Tu vois, comme quoi, moi, justement, je privilégie mail et réseaux sociaux, en fait, l'indirect, pour me laisser le temps. J'aime qu'on me laisse le temps de répondre quand j'ai le temps. Parce que tu vois, un appel téléphonique, des fois, tu étais en train de faire autre chose et ça vient te couper, quoi, dans ton élan.
Non, mais bien sûr, moi aussi, je privilégiais le mail pour une première prise de contact. Et il m'arrive moi-même de contacter des gens par les réseaux sociaux parce que je trouve pas de mail ou je trouve pas de numéro de téléphone. Mais après, c'est là où les réseaux sociaux, je trouve, sont quelque chose de périlleux, c'est sur la forme. Parce que c'est les réseaux sociaux, on n'est plus la forme de politesse, etc. Et ça, j'ai du mal et je trouve que finalement, un mail en bonne et due forme ou un coup de fil en bonne et due forme, eh ben, ça reste aussi une manière de prendre contact avec les gens sans filtre, en fait.
Oui, non, mais je comprends. Et est-ce que pour terminer, est-ce que tu disais que tu étais de la vieille école, est-ce que tu es plutôt bonjour madame et ton nom de famille ou est-ce que tu es plutôt bonjour prune?
Moi, c'est plutôt bonjour prune, déjà parce que. Non, mais mon prénom est tellement aussi, je pense, atypique que c'est presque une signature en lui-même. Et donc, même des fois, je ne donne pas mon nom de famille. Et alors, je le donne par convention, mais en tout cas, je signe assez facilement que de mon prénom. Et ça ne me dérange pas du tout que les gens m'appellent Prune parce que.
D'accord.
Parce que c'est. Vois,
tu viens de balayer plein d'idées de reçues, tu vois. Super. Merci beaucoup pour cet épisode qui justement vient déconstruire pas mal d'idées reçues et vient apporter un véritable éclairage sur le monde du journalisme. Je te l'ai déjà dit et je te remercie encore pour ton temps, ta générosité dans tes propos, ta transparence surtout. Et vraiment, tu m'as redonné foi dans ce métier, je te l'ai déjà dit, dans le métier du journaliste parce que ces dernières années, je n'ai pas du tout vu ce que tu es en train de me raconter. Alors, ça peut être faute à moi de ne pas avoir sélectionné les bons médias hein, à un moment donné, mais tu vois, si demain je devais accompagner un hébergeur ou un office de tourisme sur sa stratégie presse, j'aurais tendance à dire, premier filtre, choisissez des médias qui ont ce vrai travail en fait de presse. Point barre. C'est déjà un énorme filtre et je pense qu'on en balaye déjà pas mal en faisant ça.
Oui, et il en existe encore, heureusement, et dans tous les domaines.
Un grand merci à toi, Prune. Et écoute, au plaisir de découvrir le prochain numéro, celui du mois de décembre, et qui sera suivi de quelques semaines, quelques jours, de notre épisode enregistré ensemble.
Eh bien, merci à toi et bonne continuation.
Merci, à très bientôt.
À bientôt.
Et voilà, chers auditeurs, cet épisode est désormais terminé. J'espère que mon échange avec Prune vous a plu. En tout cas, un grand merci à elle parce qu'elle a vraiment permis de déconstruire plein d'idées reçues comme vous avez pu le découvrir dans cet épisode. Donc, merci beaucoup Prune encore une fois. Si cet épisode vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses, qui vous a été utile pour mettre en place votre stratégie de presse ou tout simplement au moins vous dire « Ah tiens, et si je me lançais et pourquoi pas démarrer, comme Yann l'a dit, par la petite porte de service, eh bien voilà, je serais ravie en tout cas de savoir et donc venez, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par email, peu importe, ou en me laissant un commentaire sur le podcast, je serais vraiment ravie de savoir que cet épisode vous a été utile. Et si vous a été utile, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci de partager cet épisode, que ce soit en story ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou à le partager. À vos amis par message. Voilà, n'hésitez pas si vous pensez que cet épisode peut vraiment être utile à quelqu'un autour de vous. C'est un cadeau que vous pouvez lui faire et évidemment, c'est un cadeau pour moi aussi. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt, ciao ciao.